Le Gala de la Disque, deux rendez-vous les 22 et 26 octobre, en collaboration avec Musique Plus, Musimax et ici Radio-Canada Télé. Tous les détails sur adisque.com. Ce message est diffusé par CKRL 89.1.
Vous possédez une carte de membre de CKRL?
Économisez 15 % à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Tea & Lounge au 67 René Lévesque Est.
La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
89.1.
Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la terre.
Le grain de sable d'Attaque Québec.
Bonjour à tous et bienvenue au Grain de sable réalisé par le collectif radio d'Attaque Québec. Cette semaine, nos collègues d'Attaque se sont joints à une mobilisation à Ottawa pour dénoncer le manque de transparence et de démocratie de l'accord économique Canada-Union européenne au Québec. Pendant ce temps, des jeunes citoyens parcourent des kilomètres à pied, en vélo, en kayak et en auto, en rencontrant élus et citoyens pour questionner la nécessité d'exploiter les énergies fossiles et les hydrocarbures. Plus au sud, à New York, un sommet mondial sur le climat a réuni des leaders du monde entier pour annoncer leurs solutions innovantes pour s'adapter au changement climatique. Il n'y a pas à dire, le monde bouge. Et notre conception de ce monde, elle change aussi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupe beaucoup les penseurs de l'altermondialisation. Cette philosophie qui veut une mondialisation sociale, démocratique et pluriéconomique. Une mondialisation par et pour tous. La question, c'est comment les mouvements sociaux peuvent s'arrimer avec les enjeux environnementaux. C'est d'ailleurs un thème qui est ressorti du Forum social des peuples. ATTAC, en 2013, a signé une déclaration disant que pour véritablement remédier à la crise climatique, un monde sans OMC et sans accord de libre-échange est nécessaire. Il parle de nouveaux paradigmes écologiques, donc d'une nouvelle conception du monde. Comment faut-il concevoir la relation de l'homme et de la nature aujourd'hui et quelle transition ça implique? Pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous allons aujourd'hui discuter avec des gens de terrain. Alissa Simon-Bélanger, la porte-parole du camp autogéré de la ligne 9 qui a lieu présentement à Saint-André-d'Argenteuil depuis le 20 septembre. Puis, nous allons recevoir un écologiste québécois qui a parfois fait l'objet de vives critiques et parfois de grandes éloges, mais qui est resté à travers le temps fidèle à ses idées et à son humanité. Il s'appelle André Bellil. C'est le fondateur de l'AQLPA et il est nouvellement membre du prestigieux Cercle des Phénix de l'environnement, un titre qui marque sa contribution exceptionnelle à l'avancement de la société en matière d'environnement. Mais d'abord, on écoute un chant apache en hommage à la Terre qui va nous mettre dans le bain.
Hey, yo.
Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sort. T'as recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort.
Te détruisent pour du papier.
On souillait tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe. Car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres. Nous, on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier au centre de ta souffrance. Aujourd'hui, ils sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence, écharmés par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses, ils ont gardé sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir, se font la guerre, Pachamama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe, le point levé pour le combat, Pachamama. C'est nos racines qui sont en toi, tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Qu'on va se remplir à rapport, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente tes brevets de chacune de tes espèces. Terre, mère, patrimoine ancestral de vie. Considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs. Exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs. Torturé et meurtri dans le siècle de l'horreur. Pachamama. Ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Que ton règne revienne, que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits. Qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol. T'ont recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. On t'empoisonnait ton air, souillait tes océans, tes rivières et tes mers. Et on vampirisait ton sang. Ils ont fracassé tes saisons, dérégler ton climat, nous ont coupé l'horizon avec du béton dégueulasse. Ils ont exterminé ta faune, racheté ta flore, sous-estimé ta force pour nous condamner à mort. Pachamama.
C'était « Terre mère n'est pas à vendre » de la rappeuse française Kenny Arcana. Et juste avant, on a entendu « The Apache Honoring Song », un chant composé par le trio Cherokee Walela. Donc, on va passer aujourd'hui, je suis en présence d'une personnalité qui vient tout juste d'être admise dans le Cercle des Phoenix 2014 pour sa longue carrière dans le domaine de l'environnement. Le Cercle Phoenix regroupe des personnalités québécoises reconnues pour leur contribution personnelle remarquable à la cause de l'environnement. Fondé en 1995, ce cercle compte 39 membres. M. Bilil est un homme de terrain, militant depuis 30 ans pour que notre société lutte contre le changement climatique. Il a vu se dérouler plusieurs des phases de ce qu'on appelle le mouvement écologiste. André Bilil, qui a fondé l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, la QLPA, a toujours été guidé par trois modes d'action: l'éducation populaire, l'implication citoyenne et les partenariats. Aujourd'hui, il est avec nous pour discuter de comment les mouvements sociaux peuvent s'arrimer avec les enjeux environnementaux. Monsieur Bilil?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, mais si vous pouviez mettre un petit peu plus de volume, ça irait mieux.
Vous m'entendez pas. Bon, on va faire un petit ajustement. Ça va bien. Est-ce que vous m'entendez mieux?
Oui, là, c'est mieux.
Parfait. Donc, tout d'abord, je vous félicite pour votre nomination.
Bien, merci beaucoup d'être bien aimable.
Puis merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Donc, je voudrais vous demander, petit ajustement de mon technicien de son, c'était fantastique. On oublie, c'est reparti. Donc, Monsieur Bellil, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les phases qu'a traversé le mouvement écologiste depuis vos débuts?
Je dirais qu'il y a eu la première phase là dans fin des années 60 et dans les années 70, et moi j'étais un peu issu de cette première vague là qui était intimement liée au mouvement si on veut hippie ou underground contre-culture c'était disons la devise ou le refrain de tout le monde là de la protection de l'environnement, le retour à la terre et l'antimatérialisme. Donc ça, c'est la première vague qui a donné naissance à des groupes comme les Amis de la Terre, Greenpeace, moi j'étais membre de ces groupes-là dans les années 70. Ensuite est apparue une deuxième vague, si on veut, et là, ça a été plus vers le milieu des années 90, une vague de ce que je pourrais appeler de professionnels de l'environnement, et c'était vrai aussi pour des groupes, où là, les valeurs étaient différentes. On défendait l'environnement quand même dans ces groupes-là, mais c'était plus des groupes d'affaires, des groupes business, des groupes à l'argent, et ça, déjà, ça a fait dévier un peu le mouvement environnemental qui défendait des valeurs plus humaines, plus sociales. Et il y a eu la troisième vague là, qui, elle, malheureusement, est une vague de récupération. Et bon, ça, fallait s'y attendre. Les industries qui sont à la source des grands problèmes du réchauffement planétaire, font tout pour pas changer de domaine, si on veut, quitte à créer des groupe écolo bidon, des vedettes vertes bidons et mais ça, moi j'ai vu apparaître ce phénomène-là quand même dans les années 80, mais c'était de moindre envergure. Maintenant, c'est vraiment là quelque chose d'inquiétant.
Donc, qu'est-ce que vous entendez par des petits groupes écologistes bidons? Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est que, pour vous donner un exemple, dans les années 80, quand on était, en fait, c'était même début 90, là, en 91 à peu près, quand toute la mouvance qui se battait contre les pluies acides, autant au Canada qu'aux États-Unis, nous, on était intimement liés avec des groupes des autres provinces et des États américains, et quand on était arrivé là vraiment à un moment où on savait que là l'Amérique du Nord prendrait le virage pour la réduction des émissions. Le Québec s'était engagé, plusieurs États américains importants l'avaient fait aussi. Tout à coup sont apparus, venant de nulle part, des groupes écolos qui, du jour au lendemain, sont devenus des super groupes et qui étaient partout sur toutes les tribunes et des écolos qu'on n'avait jamais connus, ni d'Adam ni d'Ève, qui eux aussi étaient sur toutes les tribunes et participaient à toutes les émissions de variété, tout ce que vous voulez. Et leur message, curieusement, était vous savez, le problème des pluies acides, c'est pas vraiment un problème et on peut régler ça facilement. On n'a pas à faire de grandes révolutions. Et ça détonnait, si on veut, avec ce qui se disait à l'époque, parce que bon, les pluies acides, juste pour donner l'exemple québécois, il y avait à peu près 100 000 lacs en voie d'acidification, donc 100 000 lacs qui étaient condamnés à mort, et certains en sont morts, et les forêts québécoises étaient aussi soumises à une douche acide là, qui causait le dépérissement forestier à grande échelle, sans parler des problèmes de santé qui sont liés à ça, et aussi, c'est peut-être une surprise pour des gens, mais l'acide contenu dans les pluies détruisait graduellement les bâtiments et les structures. Alors ça, c'était des faits acquis, scientifiquement reconnus, et tout à coup sont apparus les acido-sceptiques. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus, parce que les groupes comme nous qui étions là depuis longtemps, on s'est dit, c'est qui ce monde-là? D'où ils viennent? Comment ça? Qu'ils sont partout avec tant d'argent? Eh bien, aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus, je dirais, engagés dans des choses comme ça. Et ils ont, les groupes américains, je pense à Sierra Club, entre autres, National Audubon, ont décidé de faire enquête. Et on s'est rendu compte, au bout de la ligne, quand ces enquêtes-là ont été terminées, que c'était les compagnies pétrolières, gazières et charbonnières qui avaient créé de toutes pièces des vedettes vertes et des groupes écolos pour nous amener ailleurs, pour éviter qu'on passe à l'action et qu'il y ait un accord sur les pluies acides. Malgré tout, l'accord aura lieu et la réalité fera que, contrairement à ce que ces gens-là prétendait là, qu'il n'y avait pas de problème et que c'était pas si grave, ben on a réglé le problème et on a créé de l'emploi, on a fait rouler l'économie, on a bâti des usines de récupération d'acide, si on veut, au lieu de laisser l'acide aller avec les gaz dans l'air, ben, on le récupérait dans les usines et ça a été créateur d'emplois pour améliorer l'environnement. Sauf que ce même phénomène-là est réapparu dans la bataille sur les changements climatiques, mais d'une envergure beaucoup plus importante. Et là, il y a encore des enquêtes qui ont été faites de Guardian en Angleterre, à Londres. Le LA Times a fait des enquêtes là-dessus. C'était le Times de Los Angeles. Et le Nouvel Observateur en France. Et il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus qui démontrent que la grande industrie, si on veut, des combustibles fossiles, c'est recréer ce phénomène-là, mais de multiplier par mille. Et le Québec n'en est pas exempt. Là, partout dans le monde, on a vu cette vague de climato-sceptiques ou de semeurs de doute ralentir, si on veut, l'avancement pour régler ce problème-là.
OK. Donc, si je comprends bien, vous, ce que vous avez remarqué, c'est que depuis les débuts, il y a quand même eu une réponse de la part des principales entreprises qui étaient au cœur de notre économie puis qui se sentaient vivement attaquées par les écologistes. Donc, elles ont répondu en articulant un contre-discours.
Oui, tout à fait.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de raison d'être sceptique du discours écologiste, selon vous?
Ben, écoutez, là, il faut que la logique prévale, là. C'est sûr qu'il y a des gens qui se présentent comme des écolos puis qui vont dire n'importe quoi. Il faut quand même passer l'examen des faits. Bon, dans le cas de la QLPA, ben, je pense que je suis très fier de tout ce qu'on a fait. On a gagné tous les dossiers qu'on a menés. Puis je dirais que 95-99% du mouvement environnemental est composé de gens honnêtes. Mais l'argent, c'est bien connu, corrompt le monde, hein? Et où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous décrire, vous, de votre point de vue aujourd'hui, là, depuis les 10 dernières années, là, on voit quand même un changement au niveau des luttes environnementales. C'est quoi les défis qui nous attendent concernant l'adaptation au changement climatique? En dehors de ce qu'on entend beaucoup, oui, il faut faire des politiques qui vont nous permettre de nous ajuster au climat, mais comment s'ajuster à l'inévitable maintenant?
Ben là, il faut revoir à peu près l'ensemble de nos structures sociales. Puis là, ce serait long de passer en revue l'ensemble, mais mettons dans les grandes lignes, il y aura et c'est déjà compris et on est en train de mettre en place des mesures comme ça à travers le monde. Là, il faudra voir jusqu'où on va aller. Mais il y aura de plus en plus de réfugiés climatiques. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, ben il y a plus de réfugiés climatiques, donc de gens qui doivent quitter la région ou le pays qu'ils habitent parce qu'il y a des problèmes liés au réchauffement planétaire et qui doivent finalement émigrer dans d'autres pays où ils sont pas nécessairement bienvenue, ben aujourd'hui, il y a plus de réfugiés climatiques qu'il y a de réfugiés à cause des guerres. Puis c'est pas les guerres qui manquent présentement.
Oui, puis ces gens-là n'ont pas de statut légal, hein?
Ben voilà. Alors là, ça, il faut être capable de faire face à ce phénomène-là. Ces gens-là, qu'ils soient du Bangladesh ou qu'ils soient d'Amérique du Sud, ont droit de vivre, hein? Il y a des droits minimaux qu'on doit reconnaître à toutes les nations, ben celui de vivre et de manger, puis d'être en sécurité, c'en est bien un. Alors ça, il y a des là, on commence dans le monde à voir l'ampleur de ce phénomène-là, et là, il y a des actions qui se posent. Maintenant, il y a d'autres niveaux niveau de problème. On peut penser à des sociétés plus riches comme les nôtres, puis je pense que présentement, l'exemple des États-Unis est un exemple très, très éloquent. Si on regarde d'abord la Californie, ben la Californie connaît des problèmes majeurs de sécheresse comme ils ont jamais connu. Et là, ben il y a le conflit de l'eau, parce que là-bas, il y a des gens qui ont la brillante idée de vouloir produire du pétrole et du gaz de schiste et utiliser l'eau qui est pour le moins extrêmement rare présentement. Maintenant, on voit que les cultures maraîchères souffrent de la sécheresse et du manque d'eau, et là, il y a un conflit. Et les compagnies pétrolières et gazières ont plus d'influence sur les gouvernements, ont réussi à se faire donner un droit prioritaire. Ben là, il y a des choses, on peut dire qu'en Californie, on a réalisé l'absurdité de la situation, et là, on travaille pour que le droit à l'eau en fonction de la nourriture ou pour abreuver des gens doit primer sur la production de gaz ou de pétrole. Encore même juste penser ou parler de ça, on est dans l'absurdité totale. Mais oui, il faut défendre le droit de pouvoir boire de l'eau. Bon.
Oui. Puis, donc, on parle de justice climatique. Hein. C'est ça, finalement, les droits humains touchent vraiment les droits environnementaux.
Ben exactement. Et là, on peut aller plus loin. Hein. Il y a le droit aussi à l'air. Là, prenez l'exemple de la Chine. Les problèmes d'air, c'est une pollution de l'air absolument incroyable. Ben là, il y a des milliers, même des dizaines de milliers de morts par année à cause de la pollution de l'air. Et là, cette pollution-là provient du développement économique accéléré où l'environnement n'avait pas sa place. Ben là, est-ce que la Chine le reconnaît, là, ils sont en train d'essayer de prendre le virage, mais ça démontre encore une fois où on a mis l'argent avant les gens, et ben il y a des gens qui meurent, puis pour les sociétés, que ce soit en Chine ou que ce soit aux États-Unis ou au Canada, ben les problèmes de santé, finalement, tout le monde paye pour ça, et ben il faut réduire les sources de pollution, et donc ça veut dire trouver à s'adapter à cette réalité-là, que si tu n'as pas d'air à respirer, tu ne vivras pas longtemps.
D'accord. Vous avez nommé donc la pollution atmosphérique, l'eau potable, l'information aussi, et puis la justice, les droits finalement à l'air, le droit à l'eau, les droits environnementaux.
Les droits à la sécurité.
Les droits à la sécurité. OK, pour les réfugiés climatiques, c'est carrément de ça qu'on parle, finalement.
Oui, mais là, je vous amènerai, parce que je voulais donner deux exemples aux États-Unis. Les ouragans à répétition, ben le New Jersey, il a goûté pas à peu près il y a quelques années. Il me semble que c'est il y a 2 ans ou 3 ans, peut-être, là, je me souviens pas exactement, mais je pense que c'est 2 ans. Mais en tout cas, il y a eu pour 60 milliards de dollars de dommages parce que lors d'une tempête, l'eau a inondé des territoires qui étaient densément peuplés. Et ça, ben, ça va directement avec la hausse des océans et l'augmentation de la sévérité des événements climatiques. Maintenant, là, c'est des centaines de milliers d'habitants du New Jersey ou de la côte atlantique, parce que c'était pas que le New Jersey, qui ont été victimes d'inondations qui ont tout détruit. Ouais. La lutte au changement climatique, c'est aussi pour ça, je me souviens d'en avoir parlé dans les années 80, puis bon, on faisait rire de nous, là, moi, je pensais pas un fou de dire que on prévoit qu'avec le réchauffement planétaire, le niveau des mers pourrait augmenter de plusieurs pieds, voire de quelques mètres même. Ben aujourd'hui, on le reconnaît, d'ici une centaine d'années, l'océan Atlantique, par exemple, pourrait augmenter de niveau de 3 mètres. Mm-hmm. Ben ça, le monde qui vit pas en Californie, mais oui, sur le bord du Pacifique, mais je pense à la Floride et tout le littoral de l'Atlantique, et c'est vrai aussi au Canada, puis on le voit dans l'estuaire du Saint-Laurent et le long du Saint-Laurent. Ben ça, les gens se sont bâtis au niveau de la mer. Mm-hmm. Ben ça, quand t'as 3 pieds d'eau dans la cuisine puis que la cave est déjà pleine, ça va moins bien.
Est-ce que vous pensez que on peut articuler une transition pour devenir plus indépendant des énergies fossiles dans les 10 prochaines années?
Oui, mais tout passe par l'information. C'est ça qui est l'important. Et c'est pour ça que les compagnies ont mené une campagne de désinformation qui est hyper articulée, là, où on dépense... il y a juste, mettons, il y a deux personnes très influentes là, qui possèdent plusieurs compagnies de pétrole, dont ConocoPhillips, et qui sont propriétaires majoritaires là, des actions dans les sables bitumineux, les frères Koch. Ben, ces deux frères-là, via les nombreuses compagnies qu'ils ont dans le domaine, investissent à eux seuls 450 à 500 millions de dollars dans la désinformation. Bon, ben là, l'adaptation à cette réalité-là passe par l'information et la dénonciation là, des stratagèmes de désinformation et de redonner le pouvoir de parole aux scientifiques. Et curieusement, on le voit, ça s'est passé aux États-Unis sous le règne de Bush-Cheney. On a fait disparaître l'information qu'il y avait à l'épier pour donner place à la production de pétrole de schiste et de gaz de schiste. On a fait disparaître tous les scientifiques qui voulaient prendre la parole et ceux qui pouvaient continuer à le faire. Je pense à Rick Hansen, entre autres, là, de NOAA, là, de National Ocean and Atmospheric Administration, ben on l'a accusé de toutes sortes de choses et là les détracteurs, les climato-sceptiques, c'est une industrie, hein, les radios poubelles à Québec, là, c'est exactement ça. Ben on attaque les objecteurs de conscience pour justement que leur message ne passe pas. Ben là, ce qu'il faut faire, d'abord dénoncer ces menteurs professionnels-là. Deuxièmement, redonner la parole aux scientifiques. Et là, ben, j'établis le parallèle qu'au Canada, l'administration Harper fait exactement ce que l'administration Bush-Cheney a fait. On fait disparaître l'information. On fait disparaître les postes à l'environnement ou à Océan, Pêche et Océan Canada. Et on menace les gens qui, comme à Radio-Canada, veulent se préoccuper de ces questions-là, de leur faire perdre leur job ou leur budget. Ben ça, il faut qu'on le sache. Faut qu'on en parle. Faut se subjecter à ça. Et ensuite, ben il faut regarder le problème en face. Puis le problème, finalement, ce qu'on a à faire, c'est de passer au 21e siècle. Et passer au 21e siècle, c'est tourner le dos aux combustibles fossiles et développer l'industrie des énergies vertes, de l'efficacité énergétique. Ça va être créateur d'emplois, ça va améliorer la situation à bien des niveaux, mais malheureusement, on aura à vivre avec le réchauffement planétaire pendant un bout de temps, donc on devra aussi travailler à l'adaptation, et comme je le disais au début, il faudra revoir toutes nos structures. Puis je vais vous donner juste un exemple là, qui, d'après moi, est révélateur.
Pensez-vous qu'on peut en parler après la pause?
Ah, ben si vous voulez.
Parce que on continue après la pause, on va pouvoir parler de désinformation et vous allez pouvoir nous expliquer aussi comment vous voyez ça, vous, pour la transition.
OK.
OK? Alors, on part en pause.
Dans le cadre de la rentrée culturelle, le Cercle vient de dévoiler l'ensemble de sa programmation musique. Il accueillera sur scène nul autre que The Silverman Zion Memorial Orchestra, Dead Obies, Secret Chiefs 3, La Femme, Ben Frost, Corias, Candle et plusieurs autres. Découvrez dès maintenant la programmation art et culture du Cercle ainsi que l'ensemble de ses autres sphères d'activité au www.letraitdunioncercle.ca. Dans le cadre de la rentrée culturelle, le Cercle vient... Après s'être fait remarquer au Festival en chanson de Petite-Vallée, au Festival de l'Outaouais émergent et au Festival Off de Québec, La Bronze présente son premier album.
Tu me plies en avion de papier.
Forte de sensualité, doucereuse et exquise, La Bronze est de ces artistes qui nous ensorcellent voluptueusement. Enveloppée par une musique pop-rock parée de scintillements électro, ce premier opus réunissant 12 morceaux est un hymne à l'amour, au rêve, au désir, à la convoitise.
Explose-moi en rose.
album qui devient une fascinante romance. Le premier album homonyme de La Bronze, en magasin et en téléchargement, dès maintenant.
Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez, l'Opéra National de Paris présente La Traviata. Pride. Qu'est-ce qu'on fait ici? La ritournelle. Deux temps, trois mouvements. Trop l'emboîte. Tudor Nicole. Yves Saint-Laurent. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation, les aventuriers voyageurs présentent La Route de Soie. Deux temps, trois mouvements. Qu'est-ce qu'on fait ici? La ritournelle. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs.
89.1.
Les chars soviétiques entrent dans Budapest.
Un deuxième char le suit de près?
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux.
CKRL.QC.CA.
Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. Dans la tirée sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone.
J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage, prenez-en c'est de bon cœur, de bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage. La musique est partout la même. Cette terre est juste de passage pour flatter votre égo de passage. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie.
Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
On le connaît, l'air du plastique. C'est la rengaine du quotidien, celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent, ça vous enterre des paniers, c'est là au moins pour 100 ans. Un siècle d'air de plastique, ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité. La mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré, drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie.
Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Quelle fleur satanique cette terre a vu enfanter. Quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais. Main de l'homme sur le monde redessine les paysages. La musique est partout immonde. Cette terre est juste de passage pour flatter votre égo de passage.
et l'ère du plastique. De retour au grain de sable d'Attaque Québec avec le président de l'AQLPA, M. André Bellil. Malheureusement, on n'aura pas Alissa Simon-Bélanger car on n'a pas réussi à la rejoindre par téléphone. Un petit problème technique. Donc, on va continuer. Où en étions-nous? Nous avons abordé les défis de l'adaptation au changement climatique et l'évolution du mouvement écologiste depuis les 30 dernières années au Québec. Et on a parlé un petit peu de transition. M. Bellil, comment faire pour que les mouvements sociaux s'arriment avec les luttes environnementales?
Ben, je pense que ça devrait être naturel. Il faut créer des occasions de se rencontrer et d'échanger ensemble parce que les questions environnementales, quand on prend l'exemple du réchauffement planétaire, ben touche à tous nos droits et à toutes sortes d'aspects de notre vie qui fait qu'on n'a pas le choix que de travailler ensemble pour que dans le 21e siècle, on passe à autre chose. Là, les combustibles fossiles, ben il faut qu'on tire le rideau et qu'on accouche de l'avenir. Et quand je dis ça, ben là, on est dans une situation où j'ai des caricatures dans mon esprit. Là, c'est la bataille entre l'homme préhistorique qui préférait continuer à fabriquer des roues en pierre parce qu'il n'a pas envie d'en faire en bois parce que bon, il a le monopole et c'est bon comme ça pour sa business. Ben, c'est justement ça le problème auquel on fait face. Dans les entreprises pétrolières et gazières, on veut tout simplement pas changer, mais la société peut changer et peut tourner le dos aux combustibles fossiles. Et ce faisant, ben là, si les mouvements sociaux et environnementaux travaillent ensemble, ben là, on va s'auto-protéger et accélérer le mouvement. Tantôt, je parlais pour vous donner un exemple très, très, très concret. Moi, je demeure dans une petite place dans les montagnes de Chaudière-Appalaches, là. Ça s'appelle Frampton. C'est entre Sainte-Marie-de-Beauce puis le lac Etchemin. Ben, l'ouragan Irène, là, il y a quelques années, a déversé tellement de pluie dans une période quand même assez courte que tous les ponts et tous les calvettes, tous les tuyaux ont sauté dans notre petite municipalité de 1200 habitants. Et là, on s'est retrouvé plus capable de sortir de nos rangs. Et là, ben, la grande leçon a été tirée. Hein. On a décidé on a réparé tous les ponts, on les a rehaussés, on a agrandi les calvettes et tout ça. Ben là, les gens ont tout à coup réalisé que même ici, dans les montagnes, on pouvait se retrouver dans des problèmes. Et là, c'est pas un problème environnemental comme tel, dans le sens que ça a été des problèmes de circulation. Il n'y a pas eu d'empoisonnement aussi ou ça. Mais notre société était carrément paralysée. Et ça me rappelle, pour ceux qui étaient là en 98, quand on a eu l'épisode du verglas, qui est intimement lié au problème du réchauffement planétaire, ben il y a eu un pied de glace qui a recouvert le sud du Québec, la Montérégie et Montréal. Ben ça marchait mal, pas mal, pendant un mois et demi, toute la société a été paralysée.
Oui, mais voilà. Là, aujourd'hui, là, il se passe plein de choses. Il y a des gens qui sont je pense aux citoyens là, qui sont au camp de la ligne 9 à Argenteuil, je pense, Saint-André-d'Argenteuil.
Ouais.
Eux, concrètement, ils ont décidé d'organiser des ateliers, d'inviter des citoyens pour réfléchir à la transition. Ils font ça, c'est une initiative citoyenne, donc ils font ça de leur propre chef. Il y en a d'autres pendant ce temps-là qui parcourent des kilomètres à vélo pour aller informer les citoyens de tous les villages qu'ils rencontrent, puis les élus, sur les enjeux reliés au pétrole transporté par oléoduc ou par train. Ça s'appelle Bombe sur rail. Il y a aussi d'autres qui font une vigile près de Kakuna pour surveiller les bélugas. Il y a des gens qui sont actuellement à Ottawa pour manifester. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toutes sortes de mouvements qui sont possibles de faire. Puis souvent, la difficulté, c'est d'arrimer tous ces mouvements-là ensemble pour qu'ils aient une vision commune. Puis vous, étant une personne de terrain, je me disais peut-être que vous aviez une compréhension différente de ça.
Moi, je pense que, au contraire, je trouve que c'est mieux comme ça. Il faut qu'il y ait une diversité d'activités, une indépendance des actions et des mouvements. Il faut que les gens soient en communication, il faut que l'information circule, mais c'est une espèce de, comment je pourrais dire, de guérilla là, qu'on doit mener, qui fait que au lieu d'être tous réunis derrière un grand sauveur, ce qui n'existe pas, ou dans une grande mouvance, il faut que chacun chez soi défende son bout de terrain, s'informe et agisse de façon responsable. Et curieusement, quelque part dans l'univers, tout ça se connecte. Et là, bon, on parlait là de la ligne 9B. Ben, les gens ont commencé à comprendre. Bien sûr, c'est les écolos qui, par exemple, comme la QLPA, qui depuis les années 80, on rappelle que l'utilisation du pétrole cause toutes sortes de problèmes. Ben là, quand c'est arrivé dans le coin de la rivière des Outaouais, de la rivière des Mille-Îles, de la rivière des Prairies, du lac des Deux-Montagnes, ben là, les gens ont aussi réalisé, wow, si ça pète, c'est notre source d'eau potable. Mais là, c'est pas juste deux, trois personnes dans le fond d'un rang, là. C'est des millions de personnes qui, tout à coup, réalisent que ça peut arriver. On a vu que c'est arrivé à plein d'endroits récemment. On pense à la rivière Kalamazoo, où là, ben, ça abreuvait. C'est quand même pas dans un endroit désertique, là. Il y a une population dans cet état-là importante au Michigan. Ben là, les gens ont réalisé, waouh, ça peut arriver. Même chose quand on pense à la tragédie de Mégantic. Nous, ça faisait des années qu'on le disait que là, le transport de pétrole augmente de façon incroyable, puis on a coupé tellement dans les budgets de l'inspection de la sécurité que c'est une question de temps pour qu'il arrive une catastrophe quelque part. Malheureusement, c'est arrivé à Mégantic, mais ce serait malheureux partout, mais c'est une conséquence absolument incontournable de notre illogisme et de la course folle pour transporter du pétrole. C'est ça qu'on appelle la fièvre de l'or noir.
D'ailleurs, alors, il y a des citoyens de Lac-Mégantic qui ont créé un site web, si je me souviens bien, ça s'appelle « Plus nous attendons, plus nous attendre ou avancer », en tout cas. Ils ont décidé de créer un mouvement pour contrer la désinformation aussi, puis justement arrêter dans le fond, c'est une mobilisation citoyenne. Là, j'aurais aimé avoir plus de détails là-dessus.
Là que c'est important que les groupes se mobilisent, mais chacun de leur côté, parce que une des grandes leçons dans les années 90, quand la QLPA était le groupe qui a mené la bataille pour obtenir un débat sur l'énergie, on l'a obtenu. Mais à cette époque-là, le gouvernement a tout fait pour faire disparaître la QLPA, et on a eu tellement de misère au niveau financier qu'on a eu pendant 4 ans à presque fermer les portes. Ben, ça a fait que les gains qu'on avait obtenus ont été rapidement érodés jusqu'à temps qu'on puisse revenir. Mais il s'est passé 4 ans. Et la grande leçon de l'histoire, c'est que oui, la QLPA était très efficace. La QLPA, c'est un groupe engagé, dévoué. Mais si c'est la QLPA qui porte tous ses épaules, ben, tu fais disparaître la QLPA, puis l'action s'écroule. Aujourd'hui, les gens ont compris ça. Et au contraire, des mouvements citoyens, nous, on a invité à la création de mouvements citoyens un peu partout, ben, puisqu'ils sont indépendants, tu auras beau en faire taire un ou deux, ils vont en rester des milliers pareils.
OK. C'est déjà terminé, Monsieur Bellil. Je pense que pour les dernières 30 secondes, vous avez parlé beaucoup de mouvements citoyens. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter pour conclure?
Oui, ben la défense de l'environnement, là, appuyée par les citoyens, c'est changer le monde pour qu'il devienne meilleur. Et ça nous permet de créer de l'emploi, de développer des technologies plus propres, de développer des façons de vivre plus propres. Et tout ça nous amène une qualité de vie meilleure. Alors, travaillons ensemble, défendons notre droit à un environnement sain, notre droit à la sécurité, puis on va tous y gagner.
André Bellil, merci beaucoup.
Ben, c'est un plaisir.
Je vous souhaite une excellente journée. Et nous, on va partir en slam avec Grand Corps Malade et Richard Boringer.
Hey, tonton, est-ce que t'as regardé dehors ? sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein. Je fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants, mais il les laisse sur le chemin. Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. On avance tous tête baissée, sans se soucier du plan final. Ce système entasse des gosses, et il les regarde crever la dalle. Tonton, on est du bon côté, mais ce qu'on voit, on ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol, mais les fins de mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors? C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux, et il y a beaucoup trop de déviations. Hé, tonton, on va faire comment? Dis-moi, tonton, on va faire comment? Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, quelque part, qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer, tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle. Hé, tonton, on va faire comment, tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Hé, tonton, on va faire comment? Dis-moi, tonton, on va faire comment? Entre le fromage et le dessert, tout là-haut dans leur dîner, est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés? Dans le viseur de la souffrance, il y a de plus en plus de cibles. Pour l'avenir, pour les enfants, essayons de ne pas rester insensibles.
Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. On va rien lâcher, on va aimer. Regarder derrière pour rien oublier. Ni les yeux bleus, ni les regards noirs. On perdra rien, peut-être bien un peu. Mais ce qu'il y a devant, c'est si grand. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Faudra de l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure, leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous. Il est plutôt du côté du cœur. Fini le compte à rebours du vide, du rien dedans. Ma gueule d'amour, mon petit pote d'azur, il est des jours où je peux rien faire pour toi. Les conneries, je les ai faites, et c'est un chagrin qui s'efface pas. Faut pas manquer beaucoup pour plus être le héros. Faut pas beaucoup, je te jure petit frère, faut freiner à temps. Va falloir chanter l'amour encore plus fort. Y aura des révolutions qu'on voudra pas et d'autres qui prennent leur temps. Pourtant, c'est urgent. Où est la banque? Faut que je mette une bombe désodorante. Une bombe désodorante pour les mauvaises odeurs du fric qui dévore. Pas de place pour les gentils, les paumés de la vie. Chez ces gens-là, on n'aime pas, on compte. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. Petit frère, putain, on va le reconstruire ce monde. Pour ça, tonton, faut lui tendre la main. Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas. Alors faudra se regarder, se découvrir, jamais se quitter. On va rien lâcher, on va rester groupés. Y'a les frères, les cousines, les cousins, y'a les petits de la voisine. Y'a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien. Des allumés qui s'enflamment pour faire les malins. Y'a la mamie qui peut pas les aider, qui a rien appris dans les livres, mais qui sait toute la vie. À force de plus croire en rien, c'est la vie qui désespère. Faut aimer pour être aimé, faut donner pour recevoir. Viens vers la lumière, petit frère, ta vie c'est comme du gruyère. Mais personne te le dit, t'as une belle âme. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami chien. châtaignes, on va rien lâcher. On va aimer, regarder derrière.
De retour au grain de sable avec notre chroniqueur Michael Lessard. Bonjour Michael.
Bonjour Marie-Christine.
Toi, tu avais des commentaires à faire hein, par rapport à notre entrevue.
En fait, c'est que tu as posé la question, si j'ai bien compris, comment les mouvements sociaux ou les groupes communautaires peuvent s'arrimer au sentiment d'urgence écologique. Je sais que les groupes sociaux en général sont très sensibles à la question, mais c'est quoi leurs actions là-dessus? Qu'est-ce qu'ils font concrètement ou qu'est-ce qu'ils font pas? Est-ce que concrètement, ils font de quoi? C'est la question écologique. Moi, les groupes que je connais peuvent être très sensibles à la question, mais je suis pas convaincu que le geste suit la parole.
C'est ça. Moi, la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème-là pour l'émission d'aujourd'hui, c'est que j'ai lu un texte de Gustave Massé qui s'appelle « Le paradigme écologique ». Puis, il explique l'importance puis la nécessité qui s'impose d'elle-même depuis les derniers forums sociaux mondiaux de changer notre conception même du monde en fonction des enjeux environnementaux. Ouais. Puis ça veut dire qu'au quotidien, on a des solutions à trouver collectivement, à plusieurs niveaux. Pour moi, par exemple, le fait d'aller dans une rencontre puis de trouver encore des gobelets à café en styromousse, c'est impensable. Surtout pour des gens qui disent qu'ils s'associent à des mouvements environnementaux. Je veux dire, c'est la base, là, de pas... C'est du plastique qui se recycle pas. Puis on peut échanger ça par autre chose. Il y a d'autres alternatives qui existent.
Oui, j'ai vu... je vais donner une fleur au REPAC. Le REPAC est un groupe d'éducation, un regroupement en éducation populaire, par exemple. Ils ont acheté des assiettes réutilisables, des assiettes en plastique, des ustensiles réutilisables. Donc déjà, ils n'achètent plus de styromousse la plupart du temps. Mais la plupart des groupes que je vois utilisent souvent des ustensiles ou des trucs jetables qui, des fois, sont même pas recyclables. C'est que je pense qu'il y a un problème là. Ou encore, je nommerai pas l'événement, mais si on prend les classiques hot dogs, donc, si on prend les classiques hot dogs, une année, on peut-tu faire l'effort d'acheter la nourriture de qualité, peut-être sans OGM ou de meilleure qualité? Il y a plein de gestes qu'on peut faire, très concrets, terre à terre. Et on peut aussi arrimer des revendications écologiques aujourd'hui. Ça s'arrime facilement avec des revendications sociales, politiques, économiques.
Oui. OK, maintenant, on va aller à notre chronique événementielle.
Déjà?
On n'a pas le temps de parler plus longtemps. C'est bien intéressant, mais on fera ça pour une autre fois. Alors, donc, c'est l'heure de la chronique événementielle.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Oui, alors bonjour, je vous nomme quelques-unes des activités ou actions citoyennes. Je pensais pas vous parler du camp de la ligne 9B, puisque normalement, Elisa, je crois, est exposée ici, mais...
Alissa.
Oui. OK. Je glisse un mot. Peut-être tu peux m'aider, c'est dans quelle ville que ça a lieu actuellement?
Moi, j'avais noté que c'était Saint-André-d'Argenteuil.
OK. Donc, en tout cas, sur le site réseauforum.org, vous avez tous les détails. Vous irez voir là. Le campement a lieu jusqu'au 4 octobre. Donc, la ligne 9B, c'est une pipeline. Mais j'accélère un peu. Tout d'abord, vous dire que c'est la dernière journée pour profiter des marchés publics locaux. Donc, des marchés extérieurs qui vendent des produits locaux. Il y en a trois ce samedi, par exemple, dans Saint-Sauveur, dans le parc du Rocher, dans Saint-Roch, sur la rue Arago-Est, et même à Val-Balère. Eh oui, à Val-Balère, à la bibliothèque Félix Leclerc. Ensuite, ce mercredi soir, 1er octobre, la Palestine, l'espoir. Donc, le conférencier est palestinien, un jeune palestinien, jeune d'environ en trentaine, qui arrive de Gaza. Il va vous parler de l'histoire ancienne, actuelle, de la culture palestinienne et de beaucoup de l'espoir aussi. Ça ne sera pas une conférence négative. Il va parler un peu du vivant. des Palestiniens. C'est à 19h au cégep de Limoilou, dans le café étudiant. Ce jeudi, il y a un 5 à 7 dans le quartier Saint-Roch au profit de l'accorderie. L'accorderie, je vous en glisse un mot parce que c'est important, c'est un réseau d'échange vraiment fascinant. Si tu offres, par exemple, une heure de peinture, ça vaut une unité qui vaut de une heure, que tu peux échanger pour d'autres services d'une heure de d'autres personnes qui peuvent t'aider à faire un site internet ou quelle rénovation ou réparation de bicycle.
Ah oui, etc. Un peu comme l'accorderie.
Je parle de l'accorderie.
Ah, tu parles de l'accorderie, excuse-moi.
Oui, exact.
OK.
Donc ça, je vous invite à découvrir ça. C'est un 5 à 7 au bar La Berberie, jeudi. Vendredi, les conséquences physiques et psychologiques de la prostitution. Donc ça, c'est organisé par la Maison de Marthe avec l'organisme Le Clé. C'est à 18h30 au Musée de la Civilisation. Samedi 4 octobre, il y a une marche de solidarité avec les femmes autochtones disparues. Donc ça, c'est la Maison Missinac, Femmes autochtones du Québec et plusieurs autres organismes demandent une commission d'enquête sur le taux anormalement élevé des femmes assassinées et disparues qui sont des Premières Nations. Donc on vous invite à y aller samedi 4 octobre, midi, à la place d'Youville. Aussi ce samedi, samedi prochain, 4 octobre, Greenpeace vous invite à un cyclotour à Québec pour protéger l'article. J'ai pas le temps de tout vous expliquer les fondements, vous pourrez aller voir sur le site, mais c'est à 14h au centre Frédéric Bach, c'est-à-dire au 870 avenue de Salaberry. Donc, ce n'est qu'un échantillon, puis je vais même en publier davantage aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller voir tout ça sur le média internet réseauforum.org.
Parfait. Donc, c'est déjà le mot de la fin. Alors, je vais remercier tout d'abord toute l'équipe qui rend cette émission possible. Et j'ai nommé Michael Lessard du Réseau Forum social Québec-Chaudière-Appalaches, que vous venez d'entendre, qui voudra peut-être changer de nom parce que c'est un peu long à dire.
Réseau du Forum social.
OK, bref. David-Maxime Sanson à la technique, Étienne Blondeau et sans compter les nombreux chroniqueurs qui vont bientôt refaire leur entrée à notre émission cet automne. Et je remercie notre invité André Bellil, président de l'Association québécoise contre la pollution atmosphérique. Pour écouter en ligne nos émissions ou pour commenter, visitez notre site legraindesable.wordpress.com où vous trouverez aussi notre page Facebook. Notre page Facebook sur laquelle vous pouvez commenter nos nombreuses élucubrations durant l'émission.
Suggérer des thèmes,
des chansons, des commentaires sur ce qui s'est passé, ce qui s'est pas dit aussi, et sur l'animation et tout ça, parce que nous, on souhaite avoir votre opinion. Sur ce, demeurez à l'antenne de la radio qui cultive vos goûts sur les ondes de CKRL 89.1, car juste après la pause, les geeks contre-attaquent.
Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
89.1.
Vous organisez une soirée pour le temps des fêtes avec vos collègues, une journée de formation à votre travail, Pastissimo est là pour vous. Notre équipe d'expérience vous conseillera pour que le volet culinaire de votre événement soit réglé simplement et sans souci. Informez-vous au 88 688 2805 ou pastissimo.com.
Assistez à une rencontre hors du commun entre l'écrit et l'image le mardi 14 octobre prochain dans le cadre du festival Québec en toutes lettres lors du spectacle Paroles sur image. Pour un soir seulement, 4 auteurs et 4 dessinateurs unissent leurs forces pour créer 4 œuvres originales, lues et illustrées en direct. Découvrez les créations de Webster, Catherine Dorion, Pierre Bouchard, Bach et plusieurs autres. Paroles sur image, le 14 octobre, 21h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Macarons de festivalier obligatoire. Réservation au 88-641-6788, poste 125 ou à info@québecentoutelettres.com. Une production de Parenthèse 9, présentée grâce au soutien de Première Ovation et en collaboration avec Le Cercle, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et CKRL. Vous ne pouvez pas vous rendre sur place? Écoutez la lecture des textes en direct sur les ondes du 89.1.
Danny Placard vous présente son nouvel album Santa Maria.
C'est pas parce que là il fait noir qu'il fera plus jamais clair.
Au spectacle au Cercle, jeudi 2 octobre à 20h.
C'est pas parce qu'il neige depuis 3 jours, demain il va neiger encore.
Il est en vente dès maintenant sur lepointdevente.com.
Non, c'est pas parce que t'as raison que
MR Événements est fier de vous présenter l'Oktoberfest à la Ninkasi le 3 octobre prochain dès 17h30. 5 bouchées d'inspiration allemande vous seront servies en accord avec les bières sur les pompes de la Ninkasi. Pour l'achat de billets, consultez la page Facebook de MR Événements ou directement sur lepointdevente.com. Sortez vos chapeaux et vos moustaches pour l'occasion. MR Événements vous attend le 3 octobre dès 17h30 à la Ninkasi du Faubourg, 811 rue Saint-Jean.
Thank you.